le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Le magazine citoyen, bonjour à tous. Nous allons parler de la sécheresse qui sévit en Calédonie en ce moment et qui met les services de sécurité et d'incendie sur les dents. Les pompiers qui sont en première ligne vivent une saison compliquée. Nous allons en parler avec nos invités dans ce magazine citoyen. Le capitaine Maël Carlaguer, qui est chef de corps du centre de secours de La Foy. Le capitaine Bruno Chitoussi, qui est chef de corps du centre de secours de Dembéa. Le capitaine Gwendal Cambon, qui est chef de corps du centre de secours de Païta. Brice Régent, qui est le directeur du SIVM Sud. Et nous sommes aussi en ligne avec Arnaud Banfi, le directeur du SIVOM VKP. Bonjour à tous les cinq.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur cette situation compliquée que vit la Nouvelle-Calédonie, la sécheresse. Vous y êtes confrontés, vous qui êtes sur le terrain, les pompiers, régulièrement. Aujourd'hui, j'ai simplement envie de vous demander, pour commencer cette émission, quel est votre quotidien ? Qu'est-ce qui occupe vos journées aujourd'hui ? Quels sont vos points d'attention particuliers, capitaine Cambon ?
Alors, Comme l'ensemble des Calédoniens, on a bien constaté que depuis le début de l'année, on a une année très sèche. Et ce qui fait que pour notre corps, pour notre métier, on a une saison estivale, donc une saison des feux qui a commencé plus tôt et de façon beaucoup plus intense. Donc les missions, les opérations dès le mois de juillet-août ont commencé pour les sapeurs-pompiers du territoire et de nos communes. Et depuis, sans discontinuité, les hommes sont sur le terrain parce que nos corps sont marqués par plusieurs départs de feu par jour, réellement. On en parle de certains qui sont plus médiatisés dans les zones urbaines, mais réellement, le quotidien des sapeurs-pompiers depuis août, c'est des feux tous les jours, tous les jours.
Il y a une sorte d'état de fatigue qui s'est instauré aussi parmi les équipes ?
Grosse fatigue parce que, hélas, nous enchaînons les événements du mois de mai avec la saison estivale sans aucune période de repos. Donc les corps, les esprits ont été très marqués par les événements du mois de mai pour d'autres raisons. Et ils ont tout de suite enchaîné donc, sur cette saison qui est très intense, encore une fois. Ça fait déjà plusieurs mois qu'ils sont sur le terrain. Et on a peur que cette sécheresse et donc nos missions perdurent jusqu'à la fin de l'année, voire plus.
Capitaine Chitoussi, vous dressez le même constat ?
Alors pour Dembéa, le constat c'est à peu près le même que pour les communes limitrophes, avec la particularité que nous avons plus souvent affaire à la malveillance. On constate vraiment que sur Dembéa, quelquefois le mercredi, voilà, ou le vendredi ou les week-ends, donc on constate des inflammations spontanées qui sont dues à la malveillance. Ce qui peut aussi arriver, c'est que, enfin ce qui est aussi peut-être assez fatigant, c'est qu'on éteint et puis une ou deux heures après, on vient rallumer derrière parce que on est dans la mauvaise période. Voilà pour ce qui est la première particularité. La deuxième particularité de Dembéa, c'est qu'on constate que la zone urbaine brûle plus que la zone rurale. Donc la zone rurale, c'est le nord de la commune, c'est les grandes propriétés foncières. Donc là, les gens font attention. Mais voilà, surtout ce qui est sur le littoral, voilà, on constate malheureusement des négligences et des malveillances.
Et au niveau du rythme, vous avez aussi beaucoup été sollicité au moment des émeutes, au mois de mai. Et vous avez enchaîné, comme le disait le capitaine Cambon.
Oui, mais encore une fois, comme tous les collègues de l'agglomération, la saison des feux de forêt, c'est la même que tous les ans, avec en plus de ça, donc les événements du mois de mai. Les moyens sont les mêmes, les hommes sont les mêmes. Là, aujourd'hui, on est en deux marches, on est en plein dans la saison des feux de forêt, mais on anticipe aussi sur la future saison des cyclones. Donc, ce qui est devant nous ne nous rassure pas, ce qui est derrière nous ne nous a pas aidés.
Est-ce que la situation est la même en brousse, capitaine Carlaguer ? On va parler de La Foy, notamment. Est-ce que vous avez les mêmes problématiques que vos collègues de l'agglo ?
Effectivement, une forte sollicitation opérationnelle en ce moment, avec de nombreux départs de feu. Je rappelle que nous, c'est La Foy, mais c'est aussi Boulou Paris, c'est Farino, c'est Saraméa, c'est Moindou.
C'est une grosse zone, donc.
C'est une grosse zone, avec la chance d'un service intercommunal qui nous permet de nous renforcer en fonction des différentes interventions. Mais pour autant, le personnel est fortement sollicité. On a enchaîné de grosses interventions, mais quand même, tous les jours, des 2-3 départs sur le secteur qui font qu'on sollicite le personnel, qu'on sollicite le matériel. Et tout ça, faut veiller à ce que ça perdure, aussi bien le personnel que le matériel, puisqu'on en a besoin de par nos territoires éloignés et la superficie de notre territoire en plus. Après, on a été moins sollicité durant les émeutes, un peu plus sur Boulou Paris par rapport au reste du secteur, mais pour autant, la dernière saison sèche a perduré. On avait eu des gros feux quand même jusqu'en mars-avril sur notre secteur, donc On a une année qui s'enchaîne, qui perdure, et on a du personnel qui reste motivé malgré tout, malgré la fatigue, et on veille à ça pour qu'on puisse durer dans la saison et qu'on n'aille pas à la casse. Important.
Alors, il y a de nombreux incendies. Vous avez parlé d'actes de malveillance parfois. Il y a les incendies qu'on allume volontairement, et là, c'est de la malveillance. Il y a aussi beaucoup de mauvaises pratiques, en fait, qui fait que des feux se développent alors qu'ils n'auraient pas dû se développer. Est-ce que les feux déclenchés volontairement se sont multipliés cette année par rapport aux années précédentes, ou pas forcément dans la pratique que vous avez les uns et les autres? Capitaine Comon?
Je pense que de ces dernières années, on a en effet sur les causes des incendies de la malveillance autant que de l'imprudence. Mais je pense que cette année, alors c'est plus la gendarmerie qui pourrait nous faire un constat, mais on a parmi la malveillance des suites des émeutes. C'est-à-dire qu'il y a des mises à feu supplémentaires par rapport au taux de malveillance qu'on pourrait voir, qu'on a pu observer ces dernières années. On a quand même une majoration cette année, en lien sûrement avec les événements du mois de mai.
Vous faites le même constat, Capitaine Chitoussi ?
Alors, pour Dimbert, clairement, on peut dire que c'est 50-50. 50%, c'est vraiment des gens qui font des écobuages non surveillés parce qu'on fait le jardin. Et donc ça, c'est la culture océanienne et ça, on ne l'empêchera pas. Et clairement, c'est pas le mal, c'est vraiment si c'est comme
ça. C'est de l'inattention, quoi.
C'est de l'inattention. Et j'ai même envie de vous dire que des fois, lorsque nous intervenons, les gens sont sur place et se confondent en excuses. Bon, voilà, ça. Dès qu'il y a quand même un intérêt, qu'il y a de l'alimentation derrière, le pompier le comprend. Voilà, ce qu'on comprend moins, c'est la volonté de brûler, la volonté de nuire. Et là, exactement comme ça s'est passé au mois d'octobre, où près de l'église à Dimbert-sur-Mer, on a eu 4 jeunes incendiaires qui se sont fait arrêter. Voilà, il y a toujours, on est étroitement en lien sur Dimbert avec nos collègues gendarmes, parce que encore une fois, on est des pompiers communaux et on connaît nos secteurs. Voilà. Donc oui, c'est la même activité que les années précédentes, avec évidemment donc un lien plus marqué sur la malveillance. Mais en face de ça, voilà, on a aussi nos collègues gendarmes, on a aussi nos collègues policiers municipaux qui sont vigilants, et je souligne bien ce mot. Un exemple à Dimbert, on a pris un arrêté sur le feu. On fait des mises en demeure sur les bailleurs sociaux et pour les propriétés privées, et on force les gens à débroussailler, sinon c'est une amende. Voilà. Et dès qu'on constate effectivement une malveillance, ou dès qu'on constate effectivement que les incendiaires ont été appréhendés, la ville porte systématiquement plainte. Et pour votre information générale, cher auditeur, c'est 120 000 francs de l'heure d'intervention des pompiers et par véhicule sur Dimbert.
Capitaine Carlaguer, en brousse, à la fois, vous avez constaté que les incendies que vous avez à traiter sont d'origine de malveillance volontaire, ou pas nécessairement plus que les autres années?
J'ai pas envie de dire que chez nous, ce soit plus que les autres années. Quoi qu'il arrive, derrière la grande majorité de nos feux, c'est la main de l'homme. Hein. Soit c'est des départs de feu en bordure de route, soit c'est des départs de feu de terrain privé, du nettoyage, de l'écobuage. Et on n'est clairement pas dans la période où on peut se permettre de le faire. On a vu des petits départs qu'on pensait maîtriser. Et puis au final, ça part sur plusieurs centaines d'hectares. Et c'est des heures d'intervention, c'est plusieurs dizaines de milliers de litres d'eau qui sont déversés, qui mettent en difficulté nos communes derrière, parfois pour l'approvisionnement en eau potable d'eau.
On va en parler notamment
habitants.
Dans le Nord avec AP dans un instant. Oui.
Et tout ça, après, on a pris le même choix que nos collègues de Dimbéa, de se porter aux côtés des plaignants et de facturer l'intervention pour les personnes responsables de tout ça, pour ceux qui sont appréhendés. Et les autres, nous, on porte plainte quand même, parce qu'il faut... Il faut que ça rentre dans les mœurs, il faut que ça rentre dans les têtes. Quoi.
Alors Brice Régent, vous êtes le directeur du SIVM Sud. Au regard des témoignages qu'on vient d'entendre des pompiers qui sont sur le terrain, on se pose forcément la question de l'organisation aujourd'hui et du maillage territorial qui peut exister, notamment en province sud. Est-ce qu'il est suffisant? Est-ce que les choses sont bien organisées? Quels sont les points sur lesquels il faudrait progresser? Est-ce que la situation actuelle aussi vous oblige à réfléchir peut-être et à anticiper sur des organisations différentes pour l'avenir?
Alors, la situation actuelle, effectivement, nous oblige à revoir nos modèles. Le SIVM est compétent sur incendie et secours, mais sur bien d'autres secteurs, la distribution électrique, les déchets, etc. Et globalement, les communes ont subi 25% de réduction sur 2024 sur leur budget. Et ça s'annonce peut-être un peu mieux pour 2025, rien n'est moins sûr. Et donc, globalement, on profite de cette période, évidemment, pour se remettre en question. Il y a plein de défis au quotidien. Évidemment, il y a ceux de l'opérationnel qui ont été évoqués par les hommes du terrain. Il y a le recrutement aussi qui n'est pas évident. Et je crois que globalement, il faut quand même souligner que les citoyens, les Calédoniens, pardon, ont un comportement très citoyen. On a évidemment toujours de la malveillance. On a évidemment toujours de la négligence qui coûte très cher. Le dernier feu de Boulou Paris, 700 heures d'intervention, si on chiffre au même tarif que ce qu'évoquait notre collègue de Dimbéa, c'est 50 millions engagés par la puissance publique au niveau du SIVM. Et on chiffre que notre partie. Il y a aussi les hélicoptères missionnés par la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc ça monte très vite. Donc la problématique budgétaire pour financer cette réponse opérationnelle, évidemment, c'est important. Le recrutement, et je parler des du sens citoyen des Calédoniens, parce que la réponse qu'on apporte sur le terrain, elle est avant tout avec un encadrement calédonien aujourd'hui de qualité. Hein. On a trois capitaines ici qui gèrent trois services conséquents. Melker Léguer couvre, il le rappelait, 200 000 hectares hein, sur l'ensemble de Boulou Paris, la fois Moindou, Farino, Saraméa. Aujourd'hui, c'est quand même des territoires qui sont certes peu denses en termes de population, mais qui sont en permanence exposés. Et on s'appuie sur la population pour apporter la réponse opérationnelle. Donc une équipe de professionnels, oui, mais une très grosse équipe de volontaires derrière qui fait la qualité du service opérationnel. Et aujourd'hui, on s'adjoint à ça les réserves communales, notamment avec le monde agricole qui intervient en renfort conséquent sur le terrain. Et c'est globalement un écosystème, je dirais, qui permet de lutter contre ce qu'on subit aujourd'hui.
Capitaine Cambon.
Il ne faut pas avoir peur de faire le constat de notre état en termes de sécurité civile et de structuration territoriale en 2024. Jusqu'à présent, l'ensemble des audits, l'ensemble des rapports écrits depuis ces dernières années vont tous dans le même sens. On manque de structuration territoriale, on manque de moyens humains et matériels d'une manière générale sur l'ensemble du territoire. C'était vrai les années précédentes et ça le sera encore pour les années à venir de part entre autres des conditions budgétaires, financières dégradées. De plus, on parle de la sécheresse aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que les périodes de sécheresse, de par les évolutions climatiques, sont de pire en pire. Donc des saisons estivales de plus en plus longues, de plus en plus intenses, et on le voit au niveau de l'Europe, de l'Hexagone et de l'Europe. Ils sont maintenant, bon, ils ont déjà une structuration beaucoup plus conséquente que nous entre les départements, mais maintenant ils réfléchissent à des mutualisations européennes, tant en matière de moyens aériens, humains, matériels. Et nous, déjà aujourd'hui en Calédonie, on a du mal à faire de la mutualisation au niveau des communes. On est encore sur des régimes communaux, alors que les métropolitains sont sur des régimes départementaux. Donc la structuration est importante et elle est indispensable. Au secours, d'une manière générale, et à la lutte incendie en particulier. Donc, il faut vraiment pouvoir, aujourd'hui, malgré le contexte qu'on connaît, pouvoir avancer et faire ce qui est indispensable pour la population et pour les services de secours.
Bruce Réjean.
Oui, alors le SIVM fait un peu figure, fait un peu bande à part dans le paysage, puisque en réalité, donc le SIVM qui a 50 ans, hein, je m'en rappelle cette année, et un service qui existe depuis plus de 20 ans, a fait le pari dès le départ de se mettre ensemble pour être plus fort. Aujourd'hui, je pense qu'en toute humilité, on est probablement en dehors de l'agglo, un des services la force de frappe la plus importante hein, en brousse. Et c'est dû à l'histoire et puis à la volonté aussi de nos élus, dès le départ, de se mettre ensemble pour assurer cette force et ce service public qui aujourd'hui, certes, coûte très cher, mais qui... coûte très cher... peu cher par rapport à ce qu'il peut apporter à la population, puisqu'il permet de préserver un cadre de vie qui tient à cœur des broussards, évidemment. Le fait d'être ensemble, on fait des choses qu'on ne pourrait clairement pas faire si Boulou Paris ou La Foix ou Farino ou Saraméa encore plus étaient partis toute seule dans son coin. Le fait aujourd'hui de pouvoir sortir de cette belle caserne que tous les Calédoniens voient à l'entrée de Boulou Paris, par exemple, qu'on a été chercher avec un financement de l'État à hauteur de plus de 200 millions de francs au titre du Fonds exceptionnel d'investissement, nous permet encore une fois d'attirer des jeunes Calédoniens qui trouvent aujourd'hui pas forcément d'emploi pour qu'ils soient formés à devenir pompiers volontaires chez nous. Et en étant formés chez nous, ça leur permet derrière de s'insérer peut-être plus facilement aussi dans le monde du travail. Donc j'ai envie de dire juste, là où il y a une volonté, il y a un chemin évidemment. C'est un chemin que les élus ont pris depuis longtemps à la fois et qui consolide aujourd'hui dans les discussions avec un service qui continue de performer. Et on l'espère pour longtemps.
Alors on va revenir hein, sur ces questions éventuellement d'organisation et d'amélioration. J'aimerais juste qu'on fasse une petite incise dans cette émission puisqu'on parle de la sécheresse. On va partir dans le le Nord, dans la zone VKP. Nous sommes en ligne avec Arnaud Banfi, qui est le directeur des Sivonnes VKP, pour évoquer un autre problème. C'est la ressource, évidemment, en eau pendant cette période de sécheresse. Je crois que c'est le capitaine Carlaguer qui le disait. Forcément, quand on éteint des incendies, on a besoin aussi de pomper beaucoup d'eau, ce qui, dans cette période, n'est pas forcément très bon. Vous confirmez que dans la zone VKP, il y a un gros problème aujourd'hui en ressources en eau potable et en eau en général, Arnaud Banfi?
Oui, on a des difficultés. Alors c'est pas la première année. Hein. Depuis les sécheresses, la plus grosse sécheresse en 2019 qu'on a connue, on atteint à peu près ces niveaux-là, là et même plus tôt dans la saison. On a des réservoirs qui ont du mal à se remplir. On a des ressources qui sont vraiment au plus faible et on a commencé à ressentir des manques d'eau. Donc on a la chance d'avoir un comité sécheresse qui existe sur VKP et qui réunit la DAVAR, les services de la DDE pour l'eau agricole, pour les communes, les services de sécurité civile et des pompiers pour pouvoir faire des points réguliers sur les utilisations de cette eau, l'état des ressources et pouvoir essayer un petit peu de faire des prévisions et de voir comment va évoluer la situation.
Alors on sait qu'il y a des restrictions qui ont été imposées, hein, notamment aux particuliers, les choses habituelles, lavage de voitures, nettoyage de terrasses, etc., etc. Mais est-ce que ça a des conséquences aussi sur les services de secours et d'incendie? Est-ce que vous dites, il y a un moment où on ne pourra plus utiliser l'eau s'il y en a besoin?
Alors aujourd'hui non, et il faut savoir que les services de secours ne s'approvisionnent pas uniquement sur les poteaux incendies, ils s'approvisionnent aussi sur les cours d'eau, donc du coup sur des ressources qui sont différentes des ressources d'eau potable. Donc aujourd'hui on n'a pas cette difficulté-là et on a aussi des ressources qui sont très hétérogènes, donc les ressources des villages sont pas encore les plus sensibles aujourd'hui, donc on n'est pas encore sur un risque de devoir être en manque d'eau pour la sécurité incendie.
Par contre, pour la population, dans certains cas, il y a vraiment des mesures sur lesquelles il faut être très très prudent et vigilant.
Oui, il y a des arrêtés communaux qui ont été pris par les trois communes du Sivom, donc Vauconnet et Pointe-Boute, pour justement restriction des usages de l'eau, comme vous l'évoquiez, sur toute l'eau qui est un petit peu superflue. On demande à chacun de faire un effort. On a vu que ça a eu des effets significatifs, puisqu'on a vu une baisse des volumes mis en distribution suite à la communication un petit peu forte qu'on a fait lors du déclenchement du plan sécheresse le 20 septembre. Mais on a encore certaines zones où on a des consommations qui sont assez importantes, avec des fuites qu'on sait, dont les gens sont au courant et ne réparent pas forcément. Et donc du coup, on a des pertes d'eau et qui entraînent, qui plus est, des manques d'eau pour une partie des abonnés derrière.
Alors aujourd'hui, on attend, et je crois que toute la Calédonie attend à nouveau de la pluie, hein, parce que ça fera du bien à tout le monde. Aujourd'hui, sur la zone VKP, s'il ne pleut pas dans les jours qui viennent, vous avez encore des grosses inquiétudes ou vous pensez, entre guillemets, pouvoir tenir encore un bon moment?
Alors justement, on a eu quelques pluies significatives ce week-end, donc qui ont donné un petit peu d'espoir. On n'est pas sorti d'affaire pour autant. Hein, notre délégataire est en train de faire un état des lieux exhaustif des ressources là pour pouvoir. Donc on a un comité de sécheresse qui se réunit chaque semaine le jeudi en général pour pouvoir faire un état jeudi de l'état des ressources et voir si les pluies ont suffi à recharger de manière significative les ressources. Mais il faut de toute façon rester vigilant tant que la vraie saison des pluies ne sera pas revenue. Alors Météo NC nous annonce depuis un petit moment maintenant le retour de la Niña, et chaque fois, à chaque comité, à chaque mise à jour de bulletin, c'est un petit peu plus reculé,
La Niña est frileuse cette année. Hein,
c'est ça, la Niña tarde, se fait désirer en tout cas. Donc oui, à part attendre la pluie qui sera salvatrice, on peut rien faire d'autre et on reste vigilant et même en alerte sur ces consommations d'eau.
Et donc en attendant, vous resollicitez les privés notamment pour qu'ils soient très très vigilants sur leur consommation, hein, c'est la clé pour l'instant.
Oui, on a constaté la semaine dernière qu'il y avait un petit peu une reprise. C'est vrai que la communication, on a déclenché l'alerte sécheresse, puis le stade de crise, donc le 20 septembre pour l'alerte et le 3 octobre pour la crise. Depuis, on est en crise, donc les gens ont fait un effort, et puis là, on constate qu'ils oublient un petit peu. Donc c'est de rappeler qu'on est toujours en situation de crise, qu'il y a toujours des manques d'eau qui arrivent, qui peuvent arriver et qui arrivent dans certains secteurs, et que surtout, c'est une ressource qui est précieuse et qui est partagée entre tous. Donc le petit effort de chacun pour limiter sa consommation aura un effet sur l'ensemble des usagers et sur la pérennité du service.
Merci beaucoup Arnaud Banfi d'avoir été en direct avec nous. On va vous libérer pour la fin de cette émission. Merci en tout cas de nous avoir sensibilisé à cette question de la ressource en eau, notamment sur la zone VKP. Merci.
Avec plaisir, bonne journée.
On va revenir avec vous sur le plateau pour évoquer quelque chose qui a déjà été un petit peu évoqué, mais c'est la question des moyens matériels mis à disposition des différents centres de secours et d'incendie. Il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Vu la multiplication des choses, vu les saisons chaudes qui se poursuivent, est-ce que là aussi vous êtes un peu inquiet pour l'avenir? faire à la fois en termes de moyens, parce qu'on sait que les communes sont aussi impactées par des restrictions budgétaires très lourdes, par rapport aux risques qui arrivent ou que vous sentez venir les uns et les autres? Est-ce que aujourd'hui vous dites on a quand même de quoi répondre à notre mission, ou il faut déjà préparer l'avenir? Capitaine Cambon, pour commencer.
Et encore une fois, le fait de comprendre que les services d'incendie et de secours sont gérés au niveau communal, voire intercommunal, comme les SIVM, permet de comprendre la difficulté qu'on a à s'équiper. La plupart des communes se sont fortement engagées. Moi, j'ai la chance de travailler à la commune de Païta, où l'exécutif communal a toujours été très engagé au niveau de la sécurité civile. Pour autant, les achats d'équipements, de matériel, de véhicules, au niveau communal, sont très lourds. Et seront encore plus lourds à supporter dans les années à venir. Entre acheter un camion au niveau communal ou en acheter 10 au niveau territorial, la mutualisation a du bon. Et on n'a pas ce bénéfice au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc, quel que soit l'engagement des maires, il est difficile à un moment d'aller plus loin. Et la seule solution ne peut être qu'au niveau territorial. Ça peut être une centrale d'achat, par exemple, qui permette d'avoir une diminution des coûts pour permettre de continuer, de permettre aux communes, aux services d'incendie et de secours, de continuer à s'équiper dans le contexte actuel. Ça peut être des aides de l'État. Il y a déjà des aides de l'État au niveau de subventions, mais là, dans les années à venir, nos collègues métropolitains auront sûrement une grosse part à jouer dans l'aide qu'ils pourront nous apporter via peut-être l'envoi de matériel réformé ou d'équipement. Mais aujourd'hui, encore une fois, le constat qui a été très bien repris d'ailleurs, on a un rapport du Chambre territoriale des comptes de ce début de l'année qui faisait un audit sur la gestion des risques naturels en Nouvelle-Calédonie, disait bien sans concession que les services d'incendie et de secours, il y avait un déficit de moyens humains et matériels et qu'il était difficile de lutter et de répondre à nos opérations dans ce contexte.
Sur cette question, Brice Régent, le SIVM peut jouer un rôle évidemment.
Oui, alors moi, j'analyse les choses un petit peu par rapport à notre expérience. J'ai envie de dire, la seule solution, c'est que ça se passe au niveau intercommunal, parce que on arrive finalement bien à fonctionner. Alors évidemment, on n'a jamais suffisamment de moyens. Mais je crois que pour répondre à votre question, en fait, il faut pas élucider la question du transfert de compétences sécurité civile qui fête ses 10 ans aujourd'hui. Hein. Depuis 2014, la Nouvelle-Calédonie a décidé d'être compétente en matière de sécurité civile, et je laisse les uns et les autres décider si ce transfert a été réussi ou pas. Le fait est qu'aujourd'hui, les communes qui ont à organiser la réponse opérationnelle sont bien seules et remercie activement l'État, Gwen le disait pour Païta, qui est aussi au sein du SIVM d'ailleurs, mais pas pour l'incendie et le secours. Mais il y a cette espèce de prise de conscience de nos élus quand même d'apporter, d'agir local et toujours de penser global. C'est encore plus vrai sur l'incendie et le secours. Et donc il y a cet engagement des maires parce qu'ils sont en première ligne dans le code des communes. Le maire est le seul, quasiment le seul responsable de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité sur sa commune. Ça l'oblige sur le secours à personne, où on a beaucoup de difficultés encore à surmonter. Ça l'oblige sur les incendies, etc. L'intercommunalité, c'est la meilleure solution pour agir local. Je ne sais pas si au niveau territorial, et aujourd'hui on a 10 ans de recul sur le transfert de compétences, je ne sais pas si on aurait pu faire mieux ou différemment, sachant que la côte Est ne ressemble pas tellement à la côte Ouest et que les communes du nord de la côte Ouest sont bien différentes des communes de l'agglomération. Donc je crois que quand même cette disparité des communes fait qu'il faut, à mon avis, une solution communale ou intercommunale. Par contre, des financements, et pourquoi j'abordais la question du transfert de compétences, c'est que ce transfert de compétences, évidemment, c'est fait sans transfert de moyens, et que les alter ego de nos amis ici autour de la table, que sont les directeurs des SDIS en métropole, c'est géré au niveau départemental, ils récupèrent une partie des taxes sur les produits d'assurance, par exemple. Parce que, évidemment, quand on se fait assurer, c'est qu'il y a un risque. Et qui répond mieux au risque que les pompiers? Personne. Et donc, il y a un système de financement qui coule de source. Ça n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Donc je dis pas ça pour demander plus de moyens, je dis qu'on peut toujours, en se mettant ensemble, gérer mieux les choses, mais les maires aujourd'hui montrent leur niveau d'implication, les élus locaux montrent leur niveau d'implication dans les solutions apportées. On y arrive avec des compétences locales, de l'encadrement local. On a en brousse des gens qui sont impliqués pour être pompiers volontaires, qu'on est prêt à former, et il faut rendre à César ce qui revient à César, avec la DCGR qui est quand même très impliquée aujourd'hui au travers de son service de formation, avec des Calédoniens à sa tête qui s'investissent, qui connaissent le terrain, parce qu'on pas de la même façon des volontaires en brousse qu'ailleurs. Et donc, voilà, tout ça, même s'ils sont formés avec le même niveau d'engagement et de compétences, mais ma conviction, c'est qu'on peut faire des grandes choses au niveau intercommunal en Calédonie sur la réponse, pourvu qu'on ait les financements qui vont bien.
Alors ça, c'est évidemment une question très importante, et on sait qu'il y a des risques qui pèsent aujourd'hui sur un certain nombre de financements. Je reviens à la question des moyens matériels avec vous, capitaine Carlaguer, parce que est-ce que, finalement, en fonction du théâtre d'opération, il y a les zones urbaines et semi-urbaines, il y a des zones beaucoup plus rurales, comme la vôtre, est-ce que les moyens sont les mêmes, ou est-ce qu'il faut les adapter voilà, comment ça se passe?
Les moyens globalement sont les mêmes. Après, on a quelques moyens qui vont être plus polyvalents, on va dire, dans les zones rurales, pour qu'on puisse faire un peu d'urbain, faire du feu de forêt. Il faut que des véhicules qui puissent faire du franchissement, parce que même en allant faire des feux de maison, ben faut passer un creek, faut passer des territoires accidentés. On a des délais de route qui sont assez longs, et faut avoir le matériel adapté pour faire ces missions-là. Mmh. Et des missions qui vont durer dans le temps, donc du matériel qui va être sollicité. Pour ça, quoi.
Même question pour vous, capitaine Citoussi, sachant que vous l'avez dit, hein, à Dumbéa, il y a une partie zone urbaine et une partie zone beaucoup plus rurale.
Oui, oui. Alors, à Dumbéa, encore une fois, moi, je vais être clair avec tout le monde, les incendies de forêt, on les connaît, mais pour autant, ce n'est pas une fatalité. La saison des feux de forêt à Dumbéa, elle commence au mois d'août. Au mois d'août, on va avoir tous les propriétaires fonciers et on leur demande de faire les pistes. Donc, une fois qu'on a fait ça, on les accompagne. On est avec eux quasiment tout août, septembre, et on fait le nettoyage des pistes, qui sont à la fois des pistes qui permettent de pouvoir aller au plus près du feu, et donc de diminuer les superficies brûlées. Mais aussi, l'avantage d'une piste, c'est qu'elle peut remplacer beaucoup de moyens, et ça peut faire un coupe-feu. Donc, à partir de là, ce travail, c'est un travail qu'on initie réellement avec la commune. Mais, encore une fois, il faut vraiment entendre que les feux de forêt, ce n'est pas une fatalité, comme le reste. Un accident de la route, ce n'est pas une fatalité. Les moyens, la frugalité des moyens calédoniens, moi, ça fait exactement 30 ans que je suis pompier en Calédonie. Les pompiers en Calédonie n'ont jamais été riches. Donc, voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, l'histoire fait que les pompiers calédoniens sont jeunes, on a à peine 40 ans, la métropole c'est 200 ans. J'aime bien comparer ce qui est comparable. Si on prend le territoire de la Grande Terre qui est l'équivalent de l'Aveyron pour à peu près 300 000 habitants comme nous, eh bien ils ont 4 fois plus de pompiers. Donc voilà, chers auditeurs, à proportion gardée, sans parler de moyens, sans parler de ceci, c'est 4 fois moindre. Voilà. Et une fois qu'on a encore dit ça, eh bien, il faut aussi responsabiliser les uns et les autres, parce que je reste persuadé que ce n'est pas une fatalité.
Alors là, on parle en plus du rôle des pompiers pendant les incendies de forêt ou les incendies en général, mais on sait que les pompiers interviennent sur beaucoup d'autres choses que les incendies. Hein. Quand il va y avoir la saison des pluies, ce sera des interventions liées parfois, malheureusement, à des glissements de terrain, des inondations, il y a les accidents de la circulation, enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Hein.
Oui, mais encore une fois, c'est la même chose chez Mahé, c'est la même chose chez Gwenval. Ce qui est fatigant, clairement, c'est que quand on décide de mettre 3 ou 4 camions sur un feu de forêt, qu'on l'éteint, ce feu de forêt, que 3 ou 4 jours après, on revient derrière parce qu'on a décidé de le rallumer, c'est pas des moyens qu'on va dédier à un accident de la route. Mmh. C'est pas des moyens qu'on va dédier à un vrai feu de maison. C'est pas des moyens qu'on va dédier à une intervention prioritaire. Et c'est en cela que c'est lassant, parce que, encore une fois, les feux de forêt, c'est de la technique opérationnelle. On sait tous éteindre nos feux, voilà, clairement. Mais quand on voit le sens des priorités qui est donné, oui, là, c'est dommage. Et enfin, pour finaliser avec les moyens, à Dumbéa, on a fait ce qu'on appelle un plan pluriannuel d'investissement, où en gros, tous les 10 ans, on fait l'amortissement des véhicules, et on sait que telle année, on va acheter tel véhicule, l'année d'après, on va acheter l'autre véhicule, de manière à faire comme tout le monde partout, à étaler, le besoin pour pouvoir répondre à la demande.
Alors on pourrait encore parler très très longtemps du rôle des pompiers dans cette émission de l'organisation des services de secours. Deux petites questions peut-être avant de mettre un terme à cette émission. La première rapidement, mais on voit bien que dans vos interventions, vous êtes concentré sur évidemment préserver les biens et les personnes en priorité. Et puis de temps en temps, quand le feu part dans la chaîne, on dit qu'il est en évolution libre et qu'on ne peut rien faire, etc. C'est aussi quand même une catastrophe de voir ces feux qu'on ne peut pas traiter, même s'ils sont dans des endroits très inaccessibles pour les uns et les autres. J'imagine que ce n'est pas toujours simple, capitaine Carlaguer.
Ah, c'est pas toujours simple de faire les choix, de sensibiliser la population par rapport à nos choix, et parce que on parlait tout à l'heure d'un coût de fonctionnement important, mais derrière tout ça, c'est des vies, c'est des intérêts économiques qu'on maintient et qu'on essaye de préserver au maximum de par nos actions avec nos petits moyens. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on a une grosse action, nous en tout cas, sur notre territoire, et qu'on essaye d'étendre en lien avec les agriculteurs. On a été en lien avec la Chambre d'agriculture pour pouvoir travailler avec eux en amont et préparer au mieux cette crise-là, préparer nos chemins, préparer nos points d'eau, essayer d'utiliser au minimum l'eau communale et préparer tout ça pour que ça soit meilleur pour eux, pour préserver leur outil de travail, pour nous, pour avoir moins de temps sur intervention et peut-être utiliser moins d'eau. Et si on peut éviter que le feu, effectivement, il parte dans la montagne, et dans la montagne, il est inaccessible, ben, c'est encore mieux, quoi. Tous les ans, je pense qu'on perd des hectares de forêt humide, mais aussi de forêt sèche, parce que le feu, ben, on le laisse mourir dessus de par nos moyens, et ça recule, et ça recule. Ouais. Et à la place, ben, c'est
de la végétation pelée. Et on se rend pas compte forcément des conséquences, parce que c'est loin, on se rend pas des conséquences que ça peut avoir sur l'environnement et même sur la vie des gens en général.
Tout ça associé au cerf et tout ça, c'est des drames naturels.
Capitaine Tito aussi.
Oui, tout le monde sait que la couche d'humus, c'est la première chose qui brûle, parce que c'est un très bon combustible. Donc c'est ça qui, une fois, va brûler, va appauvrir les sols, va faire en sorte que l'eau ne soit plus retenue et va vite sédimenter pour ensuite aller dans les rivières qui vont aller à la mer. Donc les feux de forêt usent les sols, donc ce qui va empêcher donc la nappe phréatique de se remplir, et ça va donner ce qu'on voyait sur VKP. Voilà. Donc c'est le cercle vicieux. Les feux de forêt, c'est vraiment la loi de Murphy. C'est-à-dire qu'en Calédonie, une fois qu'on a quitté le littoral, on est tout de suite sur le piémont de montagne. Donc le piémont de montagne, c'est quoi? C'est qu'on intervient sur le plan vertical. Et donc là, on ne va pas les risquer des camions, on ne va pas les risquer des vies, parce que ça, quoi qu'il arrive, on a tous les éléments contre nous. Le vent, la topographie sont contre les pompiers, et donc ça donne autant de superficie brûlée.
Alors pour terminer, j'en aimerais bien entendre encore plus longtemps tout le monde, mais il va falloir qu'on mette un terme à cette émission. On l'a évoqué très rapidement, les moyens humains, les pompiers volontaires, il y avait des tentatives dans certains coins de lancer les jeunes sapeurs-pompiers, les JSP. Est-ce que vous sentez aujourd'hui en Calédonie quand même qu'il y a des vocations, qu'il y a des gens qui ont envie de se battre, qui ont envie de s'engager à vos côtés, de suivre votre exemple d'une certaine façon dans cette lutte contre les incendies et pour toutes les missions que mènent les pompiers? Est-ce que vous sentez aujourd'hui que la relève d'une certaine façon est prête, capitaine Cambon?
On a déjà des acteurs déjà en place, un engagement constant, et il faut le souligner, parce qu'encore une fois, avec ce qu'ils ont vécu en ce début d'année-là, de retrouver nos effectifs, nos éléments, encore aujourd'hui, sur la saison feu de forêt, je pense qu'il faut s'en féliciter, et il faut les remercier, que ce soit les professionnels comme les pompiers volontaires. C'est vrai qu'encore une fois, les communes et les services d'incendie et secours peuvent avoir des difficultés différentes d'un endroit à l'autre sur la Nouvelle-Calédonie. Personnellement, sur Païta, et je pense sur l'agglomération en général, on ne connaît pas encore trop de crise du volontariat, ce que peut connaître certaines parties du territoire ou du territoire français, où il est difficile de recruter des effectifs. Donc on arrive encore, en effet, à trouver des personnes qui veulent bien s'impliquer et s'engager, soit via le volontariat, donc être sapeur volontaire, soit via du bénévolat aussi. Il y a d'autres pistes, on en parlait tout à l'heure, des réserves communales, par exemple, qui peuvent être mises en place au niveau des communes. En tout cas, on l'a vu ces derniers mois, il y a un engagement citoyen, une volonté d'aider les pouvoirs publics. Et je pense qu'il faut qu'on puisse surfer dessus, en profiter, parce qu'encore une fois, seuls les sapeurs-pompiers ne pourront pas répondre au risque des sécheresses, des feux de forêt demain. Et c'est tous ensemble qu'on pourra y arriver.
Et puis une suite aussi.
Oui, alors pour Dimbéa, c'est un effet des émeutes. On a fait donc un recrutement en juillet et on a eu beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit « Moi, j'ai vécu les émeutes, je veux participer à la vie de la commune. » Un exemple très simple, il nous fallait 20 pompiers, on a eu 80 dossiers. Donc on a eu l'embarras du choix. Voilà. Ça, c'est pour le pompier volontaire. La vraie difficulté du volontariat, c'est qu'il faut pouvoir ménager du temps de libre pour la caserne.
La disponibilité,
La disponibilité, quand on est marié, quand on a des enfants, etc. Voilà. Donc ça, c'est le côté volontaire. Côté JSP, donc le jeune sapeur-pompier, c'est un dispositif pour des enfants qui ont de 13 à 17 ans. Là aussi, pareil, une grosse envie. Donc 96 dossiers pour 16 places. Donc c'est pas le déficit des vocations.
Donc c'est aussi positif quand même, capitaine Carlaguer.
Ah, des motivations, des gens qui sont restés motivés malgré la période. Pour notre part, un service qui a mis plus de moyens pour qu'il reste, pour des moyens financiers, parce que c'est ça aussi qui motive pour nos pompiers volontaires qui ont des statuts qui datent maintenant depuis plus de 20 ans, qui rendent difficile parfois le recrutement dans nos territoires, qui découragent certains et qui partent à certains moments alors qu'on arrivait à un moment où ça devenait intéressant pour le service, pour la structuration. Donc on fait des efforts, on y arrive. Mais ce travail sur le statut, j'espère qu'on va arriver à le mener un jour pour une équité pour tout le monde, pour ouvrir certaines portes qui n'ont pas été ouvertes et qui peuvent donner d'autres ambitions à d'autres personnes, et notamment chez les pompiers, où on a besoin tout le temps d'avoir du sang neuf, on a besoin de garder nos anciens, on a aussi des bénévoles qui donnent à côté sans compter, qui viennent avec leurs moyens privés, qui donnent du carburant, qui donnent de leurs outils. Et ça, c'est à saluer. Après, ben voilà, un gros travail pour nous pour mutualiser tous ces efforts, pour les structurer et que ça ne parte pas comme l'armée à Bourbaki dans tous les sens sur le feu, mais qu'on arrive à travailler ensemble et à avoir des efforts communs vraiment pour avant le sinistre, pour la préparation de la crise, aussi bien les feux de forêt que les inondations, que le secours à personne, pour pendant et pour après avoir une meilleure résilience pour notre territoire qui en a grandement besoin.
Bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, de nous avoir partagé vos problèmes, vos espérances aussi. Et puis je crois que c'était aussi une occasion de vous féliciter et de vous remercier pour tout le travail de l'ombre qui est mené, qui n'est pas souvent mis en avant sur les antennes. Voilà, c'était l'occasion de le faire pour toute cette période notamment qui vient de se passer et tout ce qui arrive encore. Merci beaucoup à tous d'être venus sur ce plateau de l'émission Qui Citoyen.